Hop, du coup ça enregistre, c'est tout bon. Alors ma première question va être toute simple, c'est déjà si vous pouvez vous présenter, savoir où est-ce que vous êtes né, si, enfin ça va être une redite, mais hein, si vous avez grandi ici ou pas, où est-ce que vous avez grandi, votre profession.
Alors moi, je suis né dans la Loire, à Roanne,
D'accord.
et mes parents ont déménagé ra assez rapidement derrière, parce que j'avais 3 ans quand ils sont arrivés à Lyon.
Ok.
Donc j'ai grandi en fait à Lyon,
Dans quel arrondissement?
8e.
Ok.
Mon père avait le choix à l'époque entre l'ouest et l'est, mais comme toute sa famille venait de Vienne, donc il a choisi plutôt le sud-est là plutôt
Je
que
vois.
l'ouest. Avec le temps, moi, je me suis dit qu'il aurait dû choisir l'autre côté, mais voilà, non, mais en tout cas, ouais, moi j'ai des bons souvenirs encore de ce temps. Et puis nous, on est venus donc dans la région, dans le sud, dans les années 90. 92, 93, par là. Et puis, on est venu, en fait, pour gérer un centre de vacances,
Ouais.
donc dans la région du Fugerais. Et puis, on est ensuite reparti sur Nice 11 ans plus tard. Et puis, on est venu s'installer à Pigéténier à la retraite. Donc, bah, ma
Très bien.
profession, je suis retraité.
Super. Merci
Je
beaucoup.
vous en prie.
Est-ce que du coup, alors ça peut aussi être à Lyon, c'est pas forcément uniquement ici, ça peut être à Lyon, ou même bon, vous n'aurez peut-être pas de souvenirs dans la Loire, mais est-ce que vous avez souvenir ah bah ouais. Il n'y
Excusez-moi.
a pas de problème, je m'en passe si vous voulez, tac. Du coup, donc, dans vos souvenirs, ou ça peut être des choses que vous racontez vos parents ou vos grands-parents, vous avez souvenir avoir entendu parler des veillées. Ces moments où on se retrouvait le soir en communauté pour échanger, jouer aux cartes, tricoter.
Alors, oh que oui.
Ok.
Oh que oui, puisque autant du côté de mon père que de ma mère, oui, c'est des choses qui existaient dans le temps, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mon père et mes parents, mon père jouait au boule, il était au club, il a fait du théâtre, il a fait de la gym. Maman était peut-être un peu moins investie, mais elle avait des réunions d'âme régulières. En plus, moi j'étais dans une famille chrétienne.
D'accord.
Et donc, il y avait des activités aussi, en plus des activités avec la famille, les amis, des activités à l'église. Donc
Ouais.
là aussi, l'emploi du temps à la maison, il y avait toujours du monde.
OK.
Donc, je crois qu'il n'y a pas un dimanche où on n'était pas chez quelqu'un ou si quelqu'un n'était pas chez nous.
C'est
Que ce soit
chouette.
la famille, des amis, ça a toujours été comme ça dans nos familles.
OK.
Autant dans la famille de mon épouse que chez moi. Oui, on vivait. Alors chacun avait sa vie, mais on faisait beaucoup de choses ensemble. Ouais.
Ok.
Et puis c'était l'époque où bon, on avait des voitures rustiques, mais quand on avait une voiture, c'était
Ouais.
déjà assez phénoménal. Donc moi, je me souviens d'un temps où mes deux frères avaient une 4 chevaux, mon père avait une 4 chevaux, et c'était drôle, quoi. Enfin, ouais. Et on a plein de photos de famille, puisque mon père faisait aussi des photos, et à l'époque, sur du verre. Et j'ai mon frère aîné qui a fait tout un travail là de retirer ses photos, on en a
Ah ouais.
numérisé, etc. Donc on a plein de photos des familles et des amis. Ouais.
Et du coup, pendant ces temps de retrouvailles, vous faisiez quoi comme activité spécifiquement? C'était plutôt des
Oh bah, des fois,
repas?
on allait au bord d'un lac faire un pique-nique, jouer au boule. On allait dans un endroit retrouver des amis et le soir, on mangeait la friture et la tome d'obé.
Ok.
Moi, je me souviens de ça quand j'étais gamin, quoi. Hein. Donc, ben, généralement, il y avait toujours quelqu'un de la famille, quoi, un cousin, des cousins éloignés, des gens. Voilà, je trouve qu'on se voyait plus souvent à l'époque où c'était plus compliqué
Ouais.
de bouger qu'aujourd'hui où logiquement on a cette
C'est vrai.
facilité. Alors peut-être aussi que les distances se sont. Moi je vois nos enfants. Bon, ben, c'est vrai, on a une fille qui est partie en Alsace. Après, en fonction des. Quand elle est fonctionnaire, donc en fonction des
Ouais.
mutations, c'est vrai que des fois ça fait des kilomètres. Donc, quand on est dans le sud et qu'elle est en Alsace,
C'est
le
compliqué
week-end, c'est
là.
compliqué.
Ouais.
On a un fils en Haute-Savoie, c'est pareil. Les distances font que Peut-être dans le temps, on était plus proches les uns des autres, on était moins loin, oui. Les familles étaient moins éparpillées.
C'est vrai. D'accord. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des différences ou des similitudes par rapport à Lyon, justement, et ici, de ce point de vue-là, de la vie en communauté, le rapport à l'autre?
Alors nous, quand on est arrivé au Fugeray, c'était drôle, parce que moi, je sortais d'un job de cadre.
Ouais.
Donc, et je donnais encore à l'époque des cours à la fac de Lyon. Et donc, il m'arrivait de me retrouver dans la rue avec un costume et un attaché-caisse. Donc, des gens m'ont dit... peut-être qu'il y en a. Ouais. Des gens m'ont dit que... Oh, mais ici, on n'aime pas les gens en costume avec les attaché-caisses. Donc, j'ai vite compris que quand j'étais au village, il fallait que je me change. Il fallait que je garde le déguisement pour la région lyonnaise. Mais bon, ceci dit, oui, après, les choses sont longues pour qu'on arrive à créer du lien ici.
Ok.
Je vais te prévenir mon épouse.
Oui. Donc, vous en étiez sur la déchiquesse.
Ouais, la question c'était comment quand on arrive dans la région la perception. Donc bon ça nous a fait rire quoi. Mm. Mais les premières personnes avec qui on a créé vraiment du lien, c'était souvent des gens qui venaient d'ailleurs, qui n'étaient pas du cru. On s'est vite rendu compte que c'était un peu compliqué parfois dans l'approche immédiateté. On s'est aperçu que si je parle à Jean et que Jean est fâché avec Pierre, Pierre me regarde d'un drôle d'air.
Okay.
Et quand je parle à Pierre, Jean me regarde d'un drôle d'air. Donc, on a vite décidé de parler à tout le monde et de dire, bah, écoutez, nous, voilà, les histoires des uns et des autres, on ne les connaît pas et on ne va pas prendre parti, ça ne nous regarde pas. Et voilà, on est comme ça. Donc on a fonctionné comme ça. La deuxième chose dont on s'est aperçu rapidement, c'est que là aussi, les gens qu'on invitait chez nous et qui nous rendaient par exemple une invitation chez eux étaient 9 fois sur 10 des gens de l'extérieur.
D'accord.
Mais pas des gens du cru. On ne rentre pas dans les maisons des gens ici. Ça met très longtemps. On vous reçoit sur la porte, oui. Les gens sont très gentils, et quelqu'un m'a dit un jour, oh, tu sais, les gens d'ici, ils t'accueillent à bras ouverts, mais ils ne les referment jamais.
D'accord, je vois.
Voilà, donc ça c'était alors après, moi on a toujours trouvé, je pense que tu es d'accord, que tout le monde était vraiment super sympa.
On a
toujours travaillé avec les artisans locaux, on a eu toujours de très bons contacts avec tout le monde, les gens ont été serviables, gentils, souriants, agréables, il n'y avait aucun souci de ce côté-là.
Il n'y a pas de souci.
Aucun souci de ce côté-là, mais voilà, ça s'arrête dans une vie qui n'est pas la vie intime, quoi. Il y a pas. Moi, c'est la grande différence que j'ai fait à l'époque. C'était beaucoup plus déjà chacun. Enfin, il y avait des frontières, même avec les personnes âgées. Voilà, la maison, c'est voilà la vie à la maison. Là. Donc, ça parle beaucoup sur beaucoup de choses, mais. Les réalités de la vie de chacun, ça reste un peu à l'écart, alors qu'on n'avait pas ce frein avec des gens qui venaient de l'extérieur. Par exemple, on avait lié, nous, amitié avec plusieurs familles, mais l'une venait du Nord, l'autre venait d'ailleurs aussi, mais c'était pas des gens du cru.
Okay.
Après, on a lié famille avec des gens âgés, qu'on a aidé à un moment donné pour des travaux, des choses comme ça, qui en a donné un coup de main, et avec qui on est allé aussi, puisqu'à l'époque, ils tuaient le cochon, ils faisaient... Voilà, donc on est allé aider une fois, je me souviens que mon frère était là, on est allé aider, et bon, c'était, comme c'était la tradition, on a mangé avec eux, voilà, et on a eu l'occasion, quelquefois, après, d'être réinvité chez eux, et je crois que c'est une des rares personnes qui était vraiment de la région chez qui on est allé.
Ok.
Ouais.
D'accord, merci. Alors j'ai une autre question, ça concerne plus la partie contes et légendes.
Oui.
Si vous, alors ça peut aussi être de Lyon ou de la Loire, il n'y a pas de problème. Si vous connaissez ou avez souvenir d'avoir entendu des contes ou des légendes qui se passeraient vraiment enfin, dans une géographie assez localisée,
alors,
que
dans
ce
le...
soit à Puget-Théniers ou ailleurs.
Alors dans le, centre de... dans le cadre du centre de vacances à Hanot, on faisait venir toutes les années un conteur ou une conteuse.
Ah ouais.
Dans les séjours.
Ok.
Voilà. Donc ça faisait partie de nos activités et tout le monde était aimait beaucoup ça.
Ouais.
Donc on avait des gens qui venaient de partout de la France, même de l'étranger parfois. Et dans une des animations qu'on aimait beaucoup avoir l'été pour les familles, c'était bien d'avoir un conteur ou une conteuse. Qui plus est, on avait un ami alsacien qui est décédé aujourd'hui, mais qui aussi adorait ça.
D'accord.
Donc il nous racontait toutes ses menteries et on avait de beaux éclats de rire et de bons moments de partage.
C'est
alors
chouette.
Il y avait je me souviens plus des noms, mais je pourrais vous les retrouver. J'ai même encore des photos et quelques vidéos de tout ça. Oui, c'était, alors j'ai pas la mémoire hein, de vous dire
ouais, ouais.
Les contes, mais oui, il y en avait. Ça durait au moins 1h30 chaque fois, parfois dehors, à la lumière d'un feu, ou à la maison près de la cheminée. Enfin bon, voilà, c'était des moments en tout cas qui, je pense, qui ont marqué beaucoup de gens.
Ok.
Ouais.
C'est sympa.
Et puis le fait de raconter des histoires dans la famille ou de parler, alors au-delà des légendes et des contes, moi j'ai souvenir que en vacances avec mes beaux-parents ou avec les miens, c'était pas rare d'avoir des veillées où les gens racontaient des choses qu'ils avaient vécues, des expériences. Donc c'était intéressant.
Ok.
Ouais. On apprenait des choses de la vie, quoi. La vie, moi j'habitais à la ville, il y a des gens qui habitaient à la ferme, qui envoyaient la vie à la ferme, et bien c'est vrai que bon, c'était intéressant d'écouter ça, quoi. Les gens qui cultivaient la lavande, comment elle était distillée après, etc. Les problèmes qu'ils rencontraient. Dans le Diwan, on parlait de la clairette de Die, et ces choses-là, de cette méthode ancestrale de faire la clairette. Et puis on a eu croisé des gens qui avaient vendu les terrains aux gens qui après avaient installé la coopérative, etc.
Okay.
Et donc bon, donc il y avait tout un tas de choses qui donne une culture, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, quand on retraverse ces endroits, on cherche la maison, on cherche un endroit, on dit tiens, oui, mais ils ont enlevé le passage à niveau, tiens, ils ont enlevé la maison, elle n'est plus là, parce que la personne, par exemple, une personne qu'on connaissait avait été garde-barrière. Voilà, donc, mais ces souvenirs remontent, quoi.
Ouais.
Et puis moi, je me souviens aussi de balades, d'excursions sur des sommets. Des journées entières et voir parfois on campait la nuit. Oui, il y avait une atmosphère très chaleureuse et puis une espèce de fusion, de solidarité des gens entre eux. Ouais, moi j'ai ces souvenirs-là.
Super.
J'ai dégraissé des comptes.
Ouais. C'est pas grave. La thématique. Ah oui, si vous avez également souvenir, ça peut toujours marcher sur d'autres lieux géographiques ici, dans le patois, qui se parlait, si vous pratiquez une de ces langues-là.
Alors moi, je n'en pratique aucune, mais ma mère parlait un patois ardéchois.
Ok.
Alors après, j'ai souvenir de chansons aussi qu'elle chantait comme ça. Alors, je ne m'amuserai pas à vous le dire. Hein. Je me souviens d'une qui avait des mots du style qui devait vouloir dire « Qu'est-ce que tu viens faire ici, garçon de la montagne ?» ou un truc comme ça. Mais oui, j'ai souvenir que maman chantait des choses comme ça. Okay. Je n'ai pas souvenir que mon père parlait un patois. Maman, oui, c'est sûr.
Ok. Ouais. Et donc, oui, vous comprenez un petit peu sur le patois des
Disons que ça ne se parlait plus déjà de mon temps. Elle pouvait comprendre quand on retournait en Ardèche, deux endroits comme ça, où il y avait encore des... Moi, j'étais gamin, et où il y avait donc des vieux messieurs ou des vieilles dames qui parlaient encore le patois.
Okay.
Mais, donc, elle comprenait. Mais bon... globalement, après, j'ai pas eu énormément de gens autour de moi qui parlaient le patois au sens régulièrement.
Ouais.
Alors après, ici, quand on est venu, quand on a habité à Nice, ben oui, on s'est retrouvé aussi des fois dans un magasin où quelqu'un rentre dans le magasin et puis commence à parler en issarte. Et puis, si personne répondait, il claquait la porte, colère que personne lui réponde, quoi. Ouais. Donc, ça n'encourage pas à parler le patois.
Ouais, ouais. Je vois, oui, c'est vrai. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous connaissez des rites ou des traditions, enfin plus dans le geste ou dans des événements spécifiques dans l'année, qui peuvent être religieux aussi, que vous avez, enfin, qui vous ont particulièrement marqué, qui peuvent être même anecdotiques, hein, ça peut être un petit geste de rien du tout, mais... Et pareil, enfin, ça peut être à Pugéténier, ailleurs. Enfin, par exemple, tout ce qui est procession, c'est des choses qui peuvent être pas mal.
Alors, ouais, moi, je viens d'une région où, à Lyon, par exemple, ce qui était marquant pour moi, c'était les illuminations.
La fête des lumières.
Ouais.
Ouais.
À l'époque, on appelait ça les illuminations.
C'était pas la fête des lumières.
Ah non, non, la fête des lumières, c'est récent. Ça a changé de nom, mais ça, c'est relativement récent. C'était les illuminations.
Ok.
Donc, et en fait, c'était au départ un hommage à la Vierge Noire, de mémoire. Mais nous, on n'est pas de tradition catho dans nos familles. Donc, tout ce qui est procession et choses comme ça, on est plutôt côté protestant. Donc, c'est pas des choses très rituelles. En plus, moi, j'ai grandi en ville. Donc oui. Globalement, moi, les premières processions que j'ai vraiment vues, c'est celle des pénitents à Pugéténier.
Ok.
Mais et la bravade à Hanotte.
La bravade, c'est.
C'est des gars qui sont en costume militaire et puis pareil, qui défilent.
Ok.
Moi perso, j'ai jamais été. Ça m'attire pas tellement dans la mesure où. Comment dire, j'ai pas le sens. Enfin, moi je vois quand les pénitents défilent actuellement, là, je pense que ça a perdu certainement de ce que ça a pu être dans le passé. On a des quelques entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif. Des gens, on dirait sont déguisés, ça fait des guignols devant,
ouais.
Un orchestre qui en a. Et puis, alors, c'est aussi une moquerie des processions, hein, oui. Par exemple. Donc, ça se comprend aussi. Mais derrière, il y a des gens qui suivent, les familles suivent, enfin, les gens qui suivent, là, et on ne sait pas s'ils suivent parce qu'il faut suivre ou
oui.
On les sent pas dedans. Donc, je sais pas, moi, ça me laisse un...
Oui.
Pour moi, ça manque de sens, de compréhension. On est là parce que s'il y a une fête qu'on va boire un coup, ok, mais...
Le sens même...
Le sens même des choses, je ne sais pas si ça fait tilt.
Ok, alors, c'est intéressant.
Bon, moi j'ai un gros défaut, je suis un pinailleur, donc le sens, les...
Non, mais je suis un peu pareil, donc c'est bien. C'est bien, c'est l'idée aussi, c'est de questionner ces choses-là pour...
Ouais, je pense que ça mériterait d'être contextualisé, d'être expliqué.
Ouais.
Mais après, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde non plus. Alors, c'est pas facile.
Je vois. Et justement, par rapport à l'univers plutôt protestant, est-ce qu'il y a Enfin, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout pour le coup.
Moi, je non plus.
Est-ce qu'il y a aussi, enfin, au niveau des festivités, ça, il y a des similitudes avec la partie catholique? Ou il y a des différences
Je ne sais pas si on peut, si on peut comparer. On n'est pas du tout dans cette logique-là, en tout cas dans le milieu protestant, me semble-t-il, les processions. Enfin bon, moi chez nous, non, en fait, on va fêter Noël, Pâques. Ouais, c'est pas dans cette. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai pas vécu des fastes ou le fait d'avoir des saints qu'on promène. Moi, ça m'est complètement étranger. Alors, je comprends, ça peut être très joli à voir, mais là encore, par rapport à ce que ça représente et à ce que ça dit, moi, je m'y retrouve pas. Et ça ne correspond pas non plus à ce que je crois, à ce que je suis. Alors après, qu'il y ait une tradition, qu'il y ait des habitudes, des rites, bon, pourquoi pas, hein? Mais bon, je pense qu'il y a des connotations auxquelles on peut s'associer et pas d'autres, quoi. Je sais pas, hein? J'imagine que même le Ku Klux Klan fait des défilés, bah, je vais pas m'associer parce que c'est pas ma tasse de thé. Donc même si ça remonte à un souvenir et qu'on veut le perpétuer, moi ça me plaît pas, quoi. Donc c'est peut-être plus de, après, une question de conviction plus que de
Oui, je
tradition.
vois.
Donc tout dépend le sens que ça a.
C'est vrai que c'est intéressant cette question du sens dans le pas juste faire pour faire, mais à réfléchir à
Oui,
ce que
pourquoi on le
ça
fait et
raconte.
qu'est-ce que ça raconte? Parce qu'on peut être en mémoire de plein de choses
C'est vrai.
et même des fois des choses très belles et qui seraient très intéressantes, mais moi je trouve qu'aujourd'hui on a une perte de sens phénoménale dans beaucoup de domaines et je me dis que dans un monde où même la réalité et les faits sont aujourd'hui perdent de leur sens et de leur importance, ça questionne. Enfin, moi, ça me bogue quelque part.
Je comprends.
Alors, j'ai pas de solution, j'ai pas de
Non, non, mais
réponse.
c'est bien de se poser la question.
Mais alors, souvent, moi, je me dis, ben, mon père était très inquiet pour ma génération. Donc, je me dis que probablement l'âge aide à un moment donné, se questionner, se dire où va-t-on, quoi. Mais je pense qu'il faut garder quand même un bel espoir dans nos jeunes qui aussi, je pense, réfléchissent. Et je pense que tout le monde ne va pas forcément vers la facilité, quoi. Donc, il y a peut-être aussi un cap, c'est le mouvement du balancier, on va trop d'un côté, trop de l'autre. Ah, peut-être qu'on aura besoin de retrouver certains équilibres. Et puis, c'est aussi pour ça que je crois que ce que vous faites et ces questionnements sont pas inutiles quelque part. Parce que ça peut amener à faire réfléchir,
C'est l'idée,
revenir aussi de ce temps où on a pensé qu'on avait tout compris, qu'on savait tout, que tout nous appartenait, qu'on maîtrisait tout. Puis tout d'un coup,
finalement.
on mesure à nouveau que, ah, donc, alors oui, moi, ça me ramène à mes fondements de foi, et choses comme ça. Moi, voilà, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont fondamentales, il y a des valeurs auxquelles il faut réfléchir. Après, je pourrais vous dire des choses pour éclairer ce que je vous dis, mais après, je ne sais pas si c'est dans le.
Enfin, moi, enfin, je trouve que c'est très intéressant la discussion, que il n'y a pas de.
À l'âge de 18 ans, mon épouse est un peu plus âgée que moi, donc, mais on a décidé tous les deux de aller faire une école de théologie. Parce que justement, on était éduqués dans des familles chrétiennes. Et en tout cas, moi, j'ai ressenti le besoin de dire, ouais, c'est intéressant ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous dit, mais d'approfondir les choses. Alors, sur un plan intellectuel, parce que je pense que c'est bien de comprendre les choses, parce que si on ne les comprend pas, c'est difficile, et d'avoir un peu de recul. Mais j'ai découvert aussi, enfin je l'avais découvert un peu avant, c'est que le problème de ce qui touche à Dieu, de la foi, c'est il y a une partie irrationnelle, une partie de confiance,
ouais.
Ce qu'on appelle la foi. Et ça nécessite des choses assez fondamentales. Alors, on ne peut pas prouver que Dieu existe ou n'existe pas, c'est compliqué. Mais j'ai découvert qu'on pouvait savoir que Dieu nous aimait. Et un peu comme un enfant envers ses parents, ouais. Il ne comprend pas des fois pourquoi il se fait taper sur les doigts, ou il ne comprend pas pourquoi son papa lui demande de faire ceci ou cela, ou pourquoi ça ne va pas comme il voudrait. Il peut faire des caprices et dire « mais moi je veux ça, mais moi je veux ça ». Et j'ai compris qu'en fait, je devais construire une relation avec Dieu. Alors ça semble complètement crétin. Mais en lisant la Bible, c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert qu'en fait, le message de la Bible, c'était ça. Donc, ce n'était pas une religion que les hommes fabriquaient. Ce n'était pas des rites. Ce n'était pas des choses à accomplir pour mériter quelque chose. C'était quelqu'un qui m'aimait et qui voulait m'aider à construire ma vie d'une manière et avec des valeurs qui me permettaient de ne pas faire n'importe quoi. Donc, mais ça nécessitait pour moi de savoir où j'étais, de savoir où je voulais aller, parce que quand on a ces deux informations, on a une chance de trouver le chemin. Alors que quand on se trompe sur qui on est, et quand on ne sait pas où on va, je pense que c'est très galère dans la vie. Donc c'est ce que j'ai essayé aussi de transmettre à mes enfants, et de dire, voilà, mais après chacun est libre de ses choix, et c'est souvent nos choix qui nous mettent dans l'embarras.
Oui, en même temps qu'ils nous sortent des situations.
Voilà, donc tout ça c'est tellement complexe que ça semble tellement simple. Mais donc ça exige de remettre des pendules à l'heure. Alors j'ai envie de dire, moi j'ai eu la chance d'avoir cette réflexion assez jeune. Donc ça m'a permis de faire des choix. Donc j'ai fait des choix de vie pour le travail. Je suis rentré dans un travail séculier. Hein. Je ne suis pas devenu ni prêtre ni pasteur. J'étais cadre toute ma vie. Et puis à un moment donné, je me suis posé la question là aussi du sens de ce que je faisais au boulot.
Ouais.
Peut-être un peu avant les autres, quoi. Et à un moment donné. Je me suis dit, mais bon, on marche sur la tête des moments. Donc, et comme on me demandait des trucs qui me semblaient complètement contre-productifs et un peu aberrants, mais qu'il fallait faire parce que le chef l'avait dit,
oui.
Je suis remonté à la direction générale et je leur ai dit, bah, écoutez, moi, si c'est ça, en plus que le chef, il n'est même pas foutu de faire ce qu'il dit, moi, je pense que dans 6 mois, je m'en irai parce que. Je ne trouve pas mon compte, quoi. Donc oui, vous êtes content de moi, c'est super, je fais du chiffre, c'est génial, sauf que moi, je ne suis pas heureux là-dedans.
Ouais.
Donc, et c'est ce qui m'a conduit à venir m'occuper d'un centre chrétien ici, en divisant par 6 mon pouvoir d'achat, quoi.
Ouais.
Mais ça m'a semblé beaucoup plus intéressant que ce que je faisais.
Super.
Parcours de vie.
Ouais, c'est un beau parcours, enfin, c'est un beau partage en tout cas.
C'est particulier en tout cas. Oui.
Non, mais c'est bien. Enfin, ça, par rapport à ce que j'ai pu, enfin, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, ça a un autre regard. C'est pour ça que je suis content de voir aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément originaires des endroits où je vais. C'est pour avoir un autre regard plus extérieur, qui a d'autres d'autres vécus, qui a d'autres comparateurs, enfin, comparateurs pour. Analyser tout ce qui se fait, justement ces questions de rite, de mémoire. Et la question du sens aussi que vous parlez, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est la première fois que je crois que je l'entends vraiment explicitement dit. D'habitude, c'est toujours la question de, bon, il faut qu'on préserve cette mémoire, etc., etc. Mais le sens.
Oui.
Et c'est bien. Enfin, moi, ça me posait bonne question, en tout cas. Donc, merci beaucoup.
Mais... Nous, on le voit dans ce que l'on partage aussi avec les uns et les autres ici. Parce que dès qu'on rentre un peu dans l'intimité des personnes, on se rend très vite compte qu'en fait, les problématiques de vie, on les a tous, quoi. Que ce soit la santé, que ce soit l'inquiétude, que ce soit les gamins, que ce soit le voisin qui nous... Voilà. Et comment on fait ? Parce qu'en fait, on a besoin de vivre ensemble, on a quand même relativement besoin les uns des autres. Et à vouloir toujours être chacun chez soi, avoir raison, être toujours dans des rapports de force, la vie devient insupportable. Donc, à un moment donné, il faut revenir à autre chose. Alors, moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je prends les abeilles assez vite. Je suis un peu sanguin aussi. Donc, mais... Je sais que ça règle rien, quoi. Ça résout rien. Donc, et puis celui après qui je parle un peu sèchement m'en veut pendant des années derrière, c'est dommage, quoi. Parce que peut-être on aurait pu construire quelque chose et puis on va passer à côté. Ouais. Peut-être on aurait pu se mettre d'accord sur quelque chose qu'on pouvait faire ensemble. Et puis on le fait pas au prétexte que et ça bloque beaucoup de choses.
Ouais.
Moi, je trouve que nos institutions ont beaucoup de mal à fonctionner aujourd'hui à cause de ça. On a des outils qui, aujourd'hui, décident à notre place, font à notre place. Je trouve ça à la fois intéressant sur un plan, mais si c'est pour ne plus prendre en compte l'humain, ça pose question.
Ouais.
Mon père était fondé de pouvoir au Crédit Lyonnais, mes deux frères étaient l'un à la Poste, l'autre au Crédit Agricole, mon fils était à la Société Générale, donc le côté banque, oui. J'en entends parler depuis très longtemps. Moi, j'aurais jamais voulu y mettre les pieds, j'avais pas le caractère pour supporter ça. Mais aujourd'hui, je sais que du temps encore de mes frangins, ils avaient un certain pouvoir pour influer sur des dossiers et pouvoir même s'engager à titre personnel en disant « moi, cet homme-là, je garantis, ça n'a pas l'air comme ça, mais je sais qu'il tiendra parole. Ben, » aujourd'hui, bonne chance.
Ouais.
Je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça. D'une part, parce que vous n'aurez pas possibilité de décision, malgré un grade de cadre. Et d'autre part, ça sera compliqué de vraiment faire confiance aux gens, à moins de bien les connaître. Et encore, ça va être chaud, quoi. Donc, on est quand même dans des modes de fonctionnement qui deviennent très compliqués. On voit bien autour de nous aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien, ils ne savent plus qui croire, ils se croient, je ne sais même pas s'ils font confiance à eux en fait. Donc on est dans des certitudes, dans des opinions, mais qui sont, moi qui me font peur, quoi, parce que je trouve que c'est proche de la folie des moments, quoi. Ça me semble complètement hors sol.
Ouais.
Donc... votre écoute active me fait sourire.
Non, mais ça fait réfléchir à pas mal de choses.
Donc, oui. Alors, questionner la mémoire, moi je suis persuadé que c'est intéressant si ça nous apprend et nous permet de faire réfléchir, parce que je ne suis pas persuadé que les choses aient beaucoup changé au cours des siècles. Je trouve que l'homme est resté ce qu'il était, quoi. Donc son environnement, oui, a changé, ça c'est clair et net. Mais ce qu'il est vraiment, je ne suis pas sûr. Donc j'étais étonné aussi. J'ai peu voyagé pendant ma vie. Et quand j'ai voyagé, c'était rarement pour du tourisme. C'était pour aller travailler, aider ou des actions particulières. Mais j'ai le souvenir d'une expérience à Madagascar où j'étais allé pour aider, pour refaire l'installation électrique d'une maison qui allait servir de maison d'accueil pour des gens et des enfants. Et moi, il y avait une maison. On allait chercher l'eau au puits, il n'y avait pas d'eau courante. Tout était installé en termes de robinetterie, de baignoire, de douche, mais des vies à la cuisine, mais il n'y avait pas d'eau. Donc, on se dit, waouh, il y a quand même un problème. Donc, pourquoi on ne met pas une pompe dans le puits et qu'on ne remonte pas l'eau? Bon, on a des questions comme ça. Et on se rend compte très vite que bah, ce n'est pas aussi simple là-bas. Ce qui paraît évident chez nous est loin d'être aussi simple. Et ça ne faisait pas deux jours que j'étais là qu'on a retrouvé une dame morte dans sa douche. C'était l'épouse du propriétaire de la maison. Et c'était pas très vieux, ces gens. Et je sais pas, elle a fait une crise cardiaque, je sais pas. Enfin, en tout cas, elle est décédée comme ça, d'un coup. J'ai parlé la veille, elle avait l'air tout à fait bien. Ça fait bizarre. Mais ce qui fait plus bizarre, c'est que... on doit prendre le corps, il a fallu le mettre dans la voiture pour l'emmener chez quelqu'un pour qu'il constate qu'elle était morte.
Je vois très bien le truc.
Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de chemin, il fallait grimper un truc. Et un corps mort, c'est pas simple. Et quand j'ai vu les gens attraper la personne par les bras et les jambes, j'aurais dit, les gars, on va faire autrement, on va prendre une porte. Et j'ai fait dégonder une porte, qu'on la mette une couverture dessus, qu'on la mette sur la porte, et on a porté la porte, quoi, parce que sinon j'ai vu le coup qu'on s'en sortait pas, quoi, de la monter comme ça. Et après, le corps a été embaumé, et pendant, je sais pas, presque une semaine, jour et nuit, il y avait des gens qui arrivaient de partout. Certains amenaient un sac de riz, d'autres... On s'est trouvé, je ne sais pas, entre 100 et 120 personnes dans cette maison. Pas d'eau courante. Ça n'a jamais été sale. Ça n'a jamais senti l'urine ou le caca. Je sais, il y avait deux WC en tout et pour tout. Je ne sais même pas... J'arrive pas à expliquer le truc.
Ouais.
Chez nous, c'est juste pas possible un truc pareil. Pas un éclat de voix. Tout le monde mangeait. Tout le monde donnait la main. Enfin, c'est juste impensable. Moi qui ai tenu un centre de vacances, je peux vous dire, ça demande ouais. Une organisation, un truc. Les choses avaient l'air de se faire...
naturellement.
Naturellement. Et là, on se pose des questions quand même. On se dit, ouais, il y a des gens quand même qui sont pauvres, qui vivent dans des situations vraiment largement plus compliquées que les nôtres, mais qui sont tellement plus humains que nous parfois. Ouais. Alors, même sans parler de leurs croyances ou de leur mode de fonctionnement, de leur culture, hein, mais sur des choses simples de la vie de tous les jours, pas une plainte, pas un mot. Ça chantait, ça priait, ils étaient recueillis. Bon, alors je comprenais pas tout puisque je parle pas le malgache,
ouais.
Mais je me souviens d'un soir où moi j'ai pris le temps aussi de faire une veillée avec eux, et ça chantait, et puis bon, moi je connais beaucoup de gens, nous on fait de la musique à la maison, donc je connais notamment beaucoup de chants religieux, des cantiques, et on chantait, et tout d'un coup, j'ai réalisé que depuis un moment, on chantait en français. Et que tout le monde chantait en français avec moi. Donc, j'ai été pris d'une émotion ouais. De dingue, en disant, mais ces gens, c'est fou, quoi. Donc, j'ai trouvé ça hyper touchant, et leur manière de fonctionner. Bon, ça questionne effectivement. Donc, ils ont une culture, elle a un passé, elle a un devenir, mais leur quotidien est aussi rythmé par par un regard de l'autre.
Ouais.
Et c'est pas le respect au sens où nous on l'entend souvent aujourd'hui quand on dit, on parle de respect, c'est tu me respectes.
Oui.
C'est-à-dire tu fermes ta gueule, tu fais ce que je veux, ce que je dis, ce qui est pas tout à fait le sens du mot non plus. Donc, il y a un mot que j'aime dans notre langue et qu'on trouve dans la Bible où il est dit « supportez-vous les uns les autres ».
Oui, ça prend son sens. Ouais.
J'aime bien les deux significations possibles. Du support au sens, c'est pas facile, mais bon, je vais faire avec. Et puis du support au sens, j'ai moi l'énergie qui te manque.
Ouais.
Et je vais te supporter, je vais te tenir. Et je trouve que, voilà, dans l'exemple que je vous donnais, j'ai trouvé que ça en était une illustration assez forte. Ouais. Je bavarde.
Super. Bah, je crois que j'ai pas d'autres questions. Mais c'était c'est un beau chemin de vie en tout cas, et c'est un très beau partage. Donc merci beaucoup.
C'est sans prétention, c'est sincère et
c'est ça qui est beau, donc c'est très chouette.
C'est pas préparé non plus.
Ah bah je sais, je vous ai appelé. Il y a bientôt juste, donc je n'en doute pas.